Bonsoir. Quel calendrier pour les prochaines opérations électorales? Vous le savez. Depuis jeudi dernier, la CEI a prolongé des 10 jours la période de dépôt de dossiers de candidature, période censée terminer le 23 mars dernier. Les responsables de la CEI reconnaissent à présent qu'il est impossible de respecter leur dernier calendrier qui fixait pour le 18 juin prochain les débuts du premier tour du scrutin présidentiel et législatif. Un nouveau calendrier sera publié après le 2 avril, date de la fin annoncée de dépôt de candidature. Mais qui va fixer ce nouveau calendrier? C'est encore une autre question difficile. Les avis sont partagés. Les uns pensent que la CEI devra fixer cette date de façon unilatérale. Les autres exigent l'accord de toute la classe politique avant de fixer les nouvelles dates de scrutin. Quel calendrier alors pour les élections en RDC et qui doit fixer ces calendriers? Dialogue entre Congolais reçoit dans ce studio de Radio Okapi Norbert Basengezi, deuxième vice-président de la CEI, Alain-André Atondoliongo, président national de la Convention pour la démocratie et la République. Au téléphone, nous avons Isidore Ndaiwel, professeur et historien. Il interviendra dans cette émission en tant qu'analyste. Il intervient depuis Paris, en France.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Prolongation de la date de dépôt de candidature, quel calendrier respecter? Georges Kamoujova.
La question du calendrier électoral se pose après la prolongation pour 10 jours de la période de dépôt des candidatures. Tous les candidats étaient censés présenter tous leurs dossiers le 23 mars dernier au plus tard, selon le calendrier de la CEI. Ce calendrier fixé pour le 18 juin, la date du premier tour des scrutins, et pour le 14 juillet, celle de la proclamation des résultats. Lors de sa dernière communication, la CEI a fait remarquer que la prolongation de 10 jours pour les dépôts des candidatures allait avoir des incidences sur la fixation de la date des élections présidentielles et législatives. En réalité, pour l'instant, on ne connaît plus à quelle date précisément le premier tour des élections aura lieu. Présentement, la CEI ne connaît qu'une seule chose, la fin des dépôts des candidatures fixée pour le 2 avril prochain. Mais là encore, il faut attendre l'évaluation qui sera faite 3 jours avant cette date de clôture pour avoir réellement l'idée de la fin définitive des dépôts des candidatures. Pour l'instant, la CEI navigue à vue. Elle n'a pas encore l'idée de quand vont intervenir les différentes étapes des opérations. Elle conduit maintenant le processus électoral dans une voie non encore clairement balisée, mais une voie ponctuée de plusieurs embûches et écueils.
Voilà, c'est là le point d'analyse de notre confrère Georges Kamoujova qui porte sur le calendrier, retrouvant Norbert Basengezi à l'état actuel des choses. Est-ce qu'on peut dire que le calendrier qui fixait au 18 la date de premier tour de scrutin est observable et respectable?
Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais dire que depuis que la commission électorale indépendante est créé, il avait présenté 4 chronogrammes au Parlement. Nous l'avons dit le jour de présentation de ces calendriers. Et nous croyons que nous étions à la fin. Nous avons présenté ce calendrier qui a été adopté avec tous les annexes. Et ce n'est pas même à dire qui doit fixer les nouveaux calendriers. C'est la commission électorale indépendante qui a mandat de préparer, d'organiser les élections à la République démocratique du Congo. La loi elle-même reconnaît ça. Je lisais tout de suite l'article 17. C'est dit que c'est la CEI qui doit fixer ces calendriers-là. Ce n'est pas une autre institution parce qu'il n'y a pas d'autre institution qui s'occupe de l'organisation des élections. Nous collaborons avec les institutions de l'État, c'est ce que dit la résolution qui nous crée. Nous collaborons avec les partis politiques, nous collaborons également avec la société civile et avec des partenaires étrangers. Nous avons reçu la lettre de 2 chambres du Parlement pour dire que les députés n'étaient pas prêts à descendre directement sur terrain et que nous devrions leur donner cette dérogation de 10 jours. C'est ce que nous avons fait. Nous avons compris qu'avec 500 personnes qui, il faut les reconnaître, sont les géniteurs de cette loi, il n'était pas question de les mettre de côté pour une transition apaiser. Cette lettre est ici. Nous avons reçu également la lettre de certains partis politiques pour dire qu'il faudrait leur donner cette dérogation.
Effectivement,
c'est ce que nous avons
effectivement,
fait.
M. Bassengezi, là, vous êtes en train de donner des raisons qui ont justifié votre décision de prolonger les 10 jours. Maintenant, vous avez prolongé les 10 jours. Est-ce que l'ancien calendrier que vous avez, le dernier que vous avez publié, serait dans la condition actuelle respectée?
Nous avons toujours dit que les chronogrammes, c'était assez micro et comparable à un poussin qui est dans l'œuf. Nous avons présenté le chronogramme en disant que l'instruction, avec tous les débats au niveau des contentieux à la Cour suprême de justice et aux cours des tribunaux, ça prendrait 36 jours. Vous calculez plus les 10 jours et 36 jours, vous verrez ça va arriver à quelle date. Nous avons dit que le déploiement ou alors la commande de matériel, ça prendrait également 42 jours. Jusque-là, ce matériel pourrait être commandé sur tous les bulletins, ça demande des photos de tous ces candidats-là. Au moment où il y a des partis qui n'ont pas encore déposé, c'est-à-dire nous n'avons pas ces photos, c'est que les 18 deviennent réalistes. Nous avons dit que le déploiement, ça doit prendre 36 jours. Nous avons l'expérience à partir du référendum, nous avons l'expérience à partir de l'enrôlement. Les 36 jours, c'est-à-dire ces jours-là sont encore à respecter. Vous y mettez plus 10 jours. Or, les 10 jours, si ça tombait, ça tomberait à un mercredi, ce qui signifie que ce n'est pas obligatoirement le 28 que cela pourrait être même fait.
Et donc, pour l'instant, on peut même dire que c'est difficile d'organiser les élections avant le 30 juin 2006.
Il est difficile d'organiser ça le 18 juin, tel que c'était prévu.
Et donc, il faudrait maintenant un nouveau calendrier.
Il faut que cette inscription soit terminée et directement nous mettons en place une feuille de route, un calendrier qui doit maintenant répondre aux exigences de ceux-là qui ont demandé. C'est ça la réalité.
Et alors, quels sont les principes sur lesquels, puisque vous dites que c'est de votre droit d'établir les nouveaux calendriers, quels sont les principes pour qui vont vous aider à établir ce nouveau calendrier qu'on attend après le 2 avril?
Mais les principes existent. Je disais que nous sommes au cinquième chronogramme. Les principes existent. C'est le premier principe. Hein, c'est le moment de l'inscription terminée. Deuxième principe, c'est le principe de la commande matérielle. Troisième principe, le principe de déploiement de ce matériel avec des éléments intermédiaires tels la sensibilisation, tels la campagne électorale.
Alors, pour l'instant, c'est ma dernière question, M. Bassengezi, pour cette partie, avant de retrouver les autres. Pour l'instant, on peut dire qu'on n'a pas encore, on n'a pas un calendrier qui sous-tend la CEI actuellement.
Nous avons un chronogramme qui est préétabli depuis très longtemps et nous allons le suivre.
Monsieur Alain André Atoun de Liongo, vous avez entendu le deuxième vice-président parler en rapport avec le calendrier, mais rapidement sur la situation, sur la difficulté d'observer les calendriers actuels. Qu'est-ce que vous dites, les calendriers fixés par la CEI qui avait retenu la date 18 comme la date de début de premier tour de scrutin?
Bon, d'abord, je suis heureux que la CEI ait enfin a reconnu qu'il était difficile de respecter son calendrier. Et d'après ce qu'il a dit, ce doit être le cinquième report, n'est-ce pas, les chronogrammes étant des indications calendaires. Je pense qu'il faut d'abord tirer un certain nombre de leçons. Avoir la responsabilité de fixer le calendrier ne signifie pas ne pas consulter les principaux intéressés. Parce que les difficultés sur le terrain, c'est nous les acteurs politiques qui les ressentons. Et nous sommes en quelque sorte les apôtres de la CEI. Si le calendrier respecte les contraintes que les hommes politiques connaissent, eh bien c'est avec plaisir que nous allons vulgariser ce que la CEI aura proposé comme calendrier en expliquant. Mais si la CEI considère que du fait que c'est de sa seule responsabilité de publier un calendrier, et donc qu'il agisse de façon unilatérale, mais voici les conséquences. Là, il ne faut pas agir de façon unilatérale, la démocratie c'est la concertation en tout point de vue.
Alors, ouais.
Ensuite, il y a nécessité de concertation politique, je le souligne, à cause de l'incidence constitutionnelle. N'est-ce pas? Vous savez, on ne peut pas avoir... Moi, mon problème, ce n'est pas d'organiser les élections avant le 30 juin, c'est d'avoir un chef de l'État élu qui prend ses fonctions le 30 juin, et c'est ça l'obligation qui met fin à la transition. Et donc, ce ne sera pas possible. Et il y a une disposition constitutionnelle, j'ai cherché la constitution ici, je ne l'ai pas vue, qui dit que
La constitution, quelle constitution?
Celle qui nous régit. Qui dispose que les autorités ou les institutions restent en place jusque...
À la mise en place des institutions correspondantes.
Ah, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de consulter. Jusqu'à la mise en place de nouvelles. Alors,
article 222.
222, voilà, je ne voulais pas... Donc c'est l'article 222. Et ceci pose quand même un problème pratique. Ce problème pratique, c'est lequel? Ne devraient rester en place que les institutions qui ont des équivalents en deuxième, à la Troisième République. Et donc, à la limite, seul le chef de l'État peut rester. Alors que font donc les autres quatre vice-présidents qui n'ont pas d'équivalent? Donc, lorsque il sera constaté qu'il n'est pas possible d'avoir un président élu qui prend ses charges le 30 juin, il y aura ce flottement, je n'ose pas dire un vide juridique à cause de la connotation sentimentale, mais il y aura ce flottement.
Ouais.
Les quatre vice-présidents, quel est leur sort? Est-ce que pendant cette période, le président doit diriger seul le pays? Doit-il consulter pour avoir un premier ministre intérimaire? Vous voyez une série de questions de nature constitutionnelle.
Et donc, pour vous, ce sont des questions qui soulèvent la nécessité d'une concertation.
Ça fait partie d'un tout et cela soulève la nécessité d'une concertation. Parce que nous sommes tous parties prenantes. La gestion du pays est aussi bien du ressort des gouvernants que de l'opposition parce que nous avons un statut légal et reconnu.
On va retrouver maintenant professeur Isidore Ndaouel, historien, je vous le rappelle, et il intervient depuis Paris. Professeur, vous avez entendu le point de vue de nos deux interlocuteurs tout à l'heure, la CEI qui considère que effectivement il n'y a pas de calendrier actuellement et c'est de son droit régalien d'établir le calendrier au regard de la loi organique et de l'autre côté il y a la nécessité d'une concertation politique. Quelle analyse vous faites de cette situation en rapport avec la question d'établissement de calendrier électoral?
Je pense qu'il est important qu'il y ait assez rapidement le calendrier. Le vice-président de la CEI nous a dit qu'il y a eu plusieurs chronogrammes et nous sommes d'accord que c'est la CEI qui doit fixer le nouveau calendrier. Il me semble, compte tenu du fait que nous avons maintenant les nouvelles dates. Nous savons que la prolongation a été de 10 jours s'agissant des candidatures. Il me semble qu'il y a là suffisamment d'éléments pour qu'il y ait révision du chronogramme et précision sur les nouvelles dates. Il est entendu que on sait que la prolongation est tout à fait quelque chose d'inespéré. On savait déjà que la date du 18 juin ne convenait pas tout à fait. Je pense que tout le monde le savait. Je pense que ce serait le temps, ce serait le moment, comme le suggère le président Atondo, qu'il y ait un contact qui soit pris avec les acteurs de terrain, les hommes politiques, pour arriver à un calendrier qui soit raisonnable. Et fort heureusement, nous tombons à une période où, sur le plan saisonnier, cela est possible, d'abord parce que c'est la saison sèche, tout au moins dans l'hémisphère sud, et que par ailleurs, ce sont les vacances scolaires. Donc on s'attendrait, me semble-t-il, à une prolongation qui soit dans la fourchette probablement de 30 jours au minimum ou de 60 jours au maximum, dans cette fourchette-là, de sorte que fin août, nous ayons non pas la fin des élections, mais nous ayons au moins l'investiture du nouveau président avant le 1er septembre. Il me semble que c'est dans ce contexte que devrait se fixer le nouveau calendrier et il me semble que il serait temps que la CEI prenne assez rapidement les options nécessaires.
On va retrouver...
Alors, s'agissant de ce phénomène du 30 juin, je suis d'accord avec le président Atondo, bien sûr qu'il faut un contact avec les acteurs politiques, mais il me semble que la prolongation devrait respecter les institutions actuelles, c'est-à-dire ne pas revoir jusqu'à la composition même jusqu'à l'organigramme de la magistrature de l'organisation du pays, respecter donc pratiquement la configuration actuelle de la présidence qui veut qu'il y ait un président et des vice-présidents. Et je pense que c'est dans ce contexte qu'il faudrait voir une prolongation. Mais n'est pas décidé, me semble-t-il, unilatéralement, que la configuration de la présidence devrait être revue au niveau de cette prolongation. Parce que ça, effectivement, ça entraînerait encore l'ouverture pour qu'il y ait d'autres négociations longues et donc pratiquement l'ouverture à une nouvelle transition qui se mettra en place. Je serais d'avis purement technique, il faudrait respecter la configuration actuelle de la présidence, c'est-à-dire un président et des vice-présidents au niveau de cette prolongation.
On va revenir à vous tout à l'heure, professeur Isidore Ndayuel. On va retrouver l'analyse de notre confrère Georges Kamoujova, Claude Kenza, qui porte cette fois-ci sur qui doit fixer le calendrier, parce que c'est la pierre d'achoppement. Vous avez sans doute observé tout au long de cette discussion, mais qui de la CEI ou de politiciens devrait fixer le nouveau calendrier qu'on attend, Claude Kenza?
La prolongation de 10 jours dans la période de dépôt de candidature rend impossible le respect du dernier calendrier publié par la CEI. La Commission électorale indépendante se propose donc de publier un autre calendrier après le 2 avril, date fixée pour la fin du dépôt de candidature. Qui doit fixer ce nouveau calendrier électoral? C'est ici où les tenants de la Constitution de la Troisième République et ceux de la Constitution de la Transition s'empoignent. Pour les tenants de la Constitution du 18 février dernier, la question de la date ne se pose plus. Il faut attendre que les nouvelles institutions soient mises en place. Dans cette perspective, la CEI peut donc, en vertu de sa loi organique, fixer unilatéralement un nouveau calendrier. Pour les tenants de l'accord global et inclusif, tout calendrier qui dépasse la date du 30 juin 2006 doit au préalable faire l'objet d'un accord politique, mais non d'une décision unilatérale. Pour eux, le 30 juin 2006 marque la fin de la transition politique de 2 ans avec prolongation de 6 mois, renouvelable une seule fois. Toute prolongation pour des raisons électorales implique de ce fait la prolongation de cette transition et donc nécessite l'accord de tout le monde. Le calendrier électoral, qui est une question technique, pose à présent un vrai problème politique qui met la CEI au centre.
Prolongation de la date de dépôt de candidature. Qui doit fixer le nouveau calendrier? C'est la deuxième partie. Retrouvons une fois le deuxième vice-président de la CEI, Norbert Bassengezi. Vous avez entendu tout à l'heure, en tout cas, la revendication de ceux qui demandent une concertation. Si c'est une décision, si la décision revient à la CEI d'établir un nouveau calendrier, est-ce que vous tenez compte des partis politiques avant de le faire?
Je voudrais d'abord vous dire que j'avais déjà répondu à cette question. L'article 17 de la loi électorale dit que c'est le calendrier de la CEI qui doit donner la feuille de route de tout ce qui va se faire pendant l'inscription des candidats, pendant la campagne électorale, pendant les opérations de vote, même pendant la période post-électorale.
Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous
plaît. C'est donc légal. L'article 244 de la même loi dit que c'est la CEI qui applique toutes les mesures prises dans cette loi. Donc on ne doit pas discuter ce qui est légal. Je voudrais dire au président Atundu que j'ai vu un document qu'il avait signé dans Conscience, je ne sais pas, Conscience africaine, manifeste de la conscience africaine. Il parlait déjà du problème de caution. Donc il est parmi les gens qui voudraient déjà mettre en cause même quelque chose qui sont dans la loi électorale. Parce que la caution n'émane pas de la CEI, elle émane de cette loi et nous ne faisons que l'appliquer. Je voudrais également dire que nous avons réuni les partis politiques à l'hôtel Memling, nous les avons réunis également à l'hôtel Invest. Je crois le même y a participé et nous avons aussi, n'y a pas participé, beaucoup y ont participé et nous avons mis ensemble les mesures d'application de cette loi. Nous avons réuni également la société civile pour cette fin. Quant à l'incidence, la question qu'il a posée autour de la fin supposée de la transition, j'y avais déjà répondu. Je venais de lui donner la Constitution qui lise les articles 222, 228 et 229. L'article 222, il a bien dit, et le professeur Daniel venait de dire quelque chose. Les institutions de la République, c'est l'institut président de la République. Les vice-présidents font partie du gouvernement. Ils coordonnent les commissions.
Il y a une différence entre le président de la République en tant qu'institution et l'espace présidentiel, qui est aussi une autre institution.
Alors,
quelle est la correspondance de l'espace présidentiel?
Les vice-présidents coordonnent des commissions spéciales au niveau du gouvernement. Et le gouvernement, c'est une institution. Ensuite, il y a l'institut au Parlement avec les deux chambres, les cours et tribunaux et les instituts d'appel à la démocratie. C'est ce que reprend l'article 222. Mais l'article 228 dit carrément que la constitution à laquelle il se réfère, du 4 avril 2003, est abrogée. Les contenus et les contenants sont donc abrogés. On ne peut pas faire un débat avec quelque chose qui soit abrogé.
Alors, je vous pose la question, M. Bassengezi. C'est-à-dire, à l'état actuel des choses, permettez-moi, M. Bassengezi, à l'état actuel des choses, vous considérez qu'en vertu de la loi, la CEI doit et sera la seule à prendre unilatéralement la décision d'établir le nouveau calendrier.
Ce n'est pas unilatéralement, légalement. Le problème des calendriers.
Mais de façon unilatérale.
Le problème des calendriers, c'est dans la loi, c'est la commission électorale indépendante.
Monsieur Bassengezi, vous avez entendu l'analyse de notre confrère Claude Kanza qui dit que prolonger, même pour des raisons électorales, des élections au-delà de 30 juin, c'est en réalité aussi prolonger la transition politique.
Qu'est-ce que vous nous apprenez? Parce qu'il existe un cadre de concertation avec tous les acteurs politiques, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux. Nous, je venais de vous dire comment nous avons appelé les partis politiques à l'hôtel Memling, c'est moi-même qui présidais la réunion. À l'hôtel Invest, c'est l'abbé Malumalu qui présidait la réunion. Il y a un cadre de concertation avec la société civile, avec les institutions publiques. Ce cadre de concertation existe, mais l'aboutissement de tout, c'est nous qui fixons les calendriers.
Est-ce que vous serez à mesure de prendre la responsabilité aujourd'hui de dire que les élections vont se dérouler jusqu'au mois d'août? Vous allez accepter la responsabilité d'avoir tous les partis politiques qui seront contre ça sur votre dos.
Mais pourquoi vous voulez nous opposer aux partis politiques? L'article 222 dont on parle, l'article 228, c'est la Constitution, ce n'est pas la CEI. Les calendriers que nous venons de vous présenter, pour présenter définitivement le résultat au premier tour, c'était le 14 juillet, c'était au-delà du 30 juin.
Monsieur Bassengezi, il y a un problème de mise en œuvre de ces dispositions légales.
Je vous dis, si alors les premiers calendriers que vous avez allaient au 14 juillet, c'est-à-dire que le deuxième que nous allons mettre en place ira au-delà même du 14 juillet.
Allez, André, attendez-le.
C'est légal.
Vous avez entendu ici le deuxième vice-président de la CEI s'appuyer sur des dispositions légales pour justifier que c'est la CEI qui est et reste le seul organe à prendre la décision sur les calendriers électoraux.
Et la CEI, je le précise, n'est pas une institution de négociation. C'est une institution d'organiser les élections.
Voilà.
Je voudrais dire au vice-président Norbert qu'il se pose un problème politique. Et lorsqu'un problème politique se pose, il est bon que l'on se concerte. Le droit n'a pas beaucoup d'aide à apporter à la CEI si se pose un problème politique. Voyez la prolongation. Ce n'est pas tant à cause des 500 députés, mais c'est parce qu'il y avait des forces importantes, l'UDPS, le PALU, qui risquaient d'être en dehors du processus et avec leurs militants. Donc il a fallu une concertation politique. Parce que le politique est justement ce qui intéresse l'intérêt, ce qui intéresse le général, l'intérêt général. Et tandis que la CEI, en tant qu'institution technique, a une vue parcellaire.
Mais exactement, ça intéresse tout le monde, l'aspect politique, mais c'est au fait les dispositions constitutionnelles qui lient tout le monde.
Oui, d'accord, je voudrais vous le lire. Il fait allusion à l'article 222 et à l'article 228.
Et 228.
Que disposent ces articles? L'article 222 dispose : les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente constitution et exercent leurs attributions. Ça, c'est un. De deux, sans préjudice des dispositions de l'article 222 alinéa 1, la constitution de la transition du 4 avril 2003 est abrogée. Abrogée, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça n'existe pas. Oui. Cela veut dire que les institutions qui se réclament de cette constitution doivent cesser d'exister. Or, dans les faits, ce n'est pas le cas. Il se pose donc un problème d'adéquation. Il faut qu'il y ait une adéquation entre la perception politique et les réalités juridiques. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, il se pose un problème politique, monsieur le vice-président. C'est pour cela que je dis, il ne convient pas d'occulter cela, parce que ces deux dispositions constitutionnelles ne résolvent pas le problème. Au contraire, suscitent. Mais comment est-ce possible qu'une institution qui n'a pas de correspondant à la Troisième République puisse exister? Et donc, alors que la base sur laquelle elle existe est abrogée. Je m'interroge et je dis, je traduis ici les interrogations et les questionnements de la classe politique. Et donc, il n'est pas bon de penser et de dire qu'il n'existe pas un problème. Il existe un problème politique, et si nous le soulevons, c'est parce que nous voulons que la transition se termine en douceur.
Oui, exactement, monsieur Atondo. Et ici, vous reconnaissez qu'il y a un problème politique. Et vous identifiez ce problème politique qui est, au fait, lié à l'inadéquation entre les dispositions de la Constitution de la Troisième République et celle de l'accord global
et
inclusif.
Et les réalités sur le terrain.
Et les réalités sur le terrain. Mais on voit ici, on a un problème technique qui est celui du calendrier. En quoi le problème des calendriers peut être lié à ces considérations politiques que vous soulevez?
Mais il est évident. Il est évident que le calendrier est là pour traduire dans les faits la volonté politique.
Lisez l'article 11 de la loi électorale.
Non, excusez-moi, je ne sais pas si nous sommes sur la même longueur d'onde. Je comprends que vous puissiez vous référer à ces articles. Mais ces articles ne sont pas apodictiques pour tout le monde. C'est pour cela que ça s'interroge. Hein, s'il n'y avait pas de problème, on serait parti. Mais pourquoi vous êtes aussi référé aux articles, n'est-ce pas, de la loi électorale, en disant que, écoutez, le 23, c'est fini, c'est fini. Mais l'effet politique, c'est ça qui influe sur le droit. Et ici, chez nous, l'effet politique est générateur de droit. Ce n'est pas dans un pays où la Constitution est née de l'accord global qu'on doit dénier aux politiques son droit d'être source de loi.
On retrouve le professeur Isidore Devel depuis la France. Professeur, vous avez assisté à ce débat. Il y a un vrai problème. Faudrait-il laisser la CEI prendre cette décision de façon unilatérale ou il faut une concertation politique? Mais selon vous, vous pensez vraiment qu'à l'état actuel des choses, il se pose un problème politique ou se pose un problème technique qui est celui de fixer le calendrier?
Je pense qu'il y a les deux. Il me semble qu'au début du débat, nous parlions tous les trois, et surtout le vice-président Bassignesi et le président Atondo disaient la même chose. C'est-à-dire qu'ils estimaient que la décision relative au nouveau calendrier relevait de la commission électorale, mais que cette commission électorale devait absolument se concerter avec la classe politique. Donc il y avait le fait de la décision qui relevait de la commission, mais l'exigence pour que cette commission n'agisse pas seule, unilatéralement, mais prenne contact avec la classe politique.
Et là, vous avez entendu M. Norbert Bassignesi dire qu'il y a déjà un cadre de concertation avec les politiciens. Est-ce que c'est suffisant ou pas?
Bon, mais là, je vois évidemment la difficulté, parce que la classe politique, d'une certaine manière, c'est tout le monde et personne. Je ne suis pas bien renseigné sur les instances qui auraient fixé ces cadres politiques, mais de toute façon, il me semble qu'il serait bon de trouver une manière de contacter les différentes tendances politiques. Nous savons que pour le moment, il y a des grandes tendances. Je voudrais évoquer le fait même de ceux qui sembleraient être à la traîne comme l'UDPS. Donc il y a plusieurs tendances qui devraient être consultées lorsqu'il est question d'une concertation dans ce sens. Je pense que c'est un élément à prendre en compte et ne pas se fixer à une bureaucratie, une sorte de bureaucratie qui serait un cadre défini une fois pour toutes, dans lequel il y aurait un nombre limité de membres, toujours les mêmes, et ne pas prendre contact avec les autres.
Oui, professeur, mais si vous êtes d'accord et vous êtes d'avis qu'il faudrait ici une concertation politique pour mettre tout le monde d'accord sur les différentes dates, les différentes échéances électorales, mais une concertation dans quel format? Si on ne tient plus compte du format déjà de cadre de concertation de la CEI avec les partis politiques.
Oui, mais je voudrais préciser que ce n'est pas la concertation qui décide. Parce que là on risque d'arriver à une question de majorité, de minorité. Non, la définition, le fait est que c'est l'instance technique, la commission électorale indépendante, qui décide, étant entendu que c'est elle qui a la responsabilité de la gestion des élections. Si ça marche mal, nous savons que si ça ne marche pas du tout, il y a des échecs au niveau de la gestion des élections. On sait que c'est la commission électorale indépendante. Puisqu'ils ont cette responsabilité dans le mauvais sens, accordons-leur également l'aspect positif de cette responsabilité, c'est-à-dire la primauté de la décision. Mais il est tout à fait normal que cette décision ne soit pas unilatérale, ce qui ne serait pas raisonnable, mais il faut que cette décision soit prise après des contacts, des concertations, des avis des différentes tendances politiques.
On va retrouver maintenant des auditeurs. D'abord, les avis de certains Congolais à Matadi. Qu'est-ce qu'ils pensent des élections et qu'est-ce qu'ils pensent de la date des élections? Ils ont été interrogés par notre confrère stagiaire Tadi.
L'organisation des élections, peu importe la date. Quand on a organisé l'enrôlement, il y avait une date butoir qui a été précisée, mais plus tard on va connaître une prolongation. Maintenant on a fixé la date, mais la date a été prolongée de 10 jours. Toutes ces prolongations vont toujours perturber le calendrier qui a été préétabli. Pendant que tout le monde veut qu'on organise des élections transparentes et des élections qui doivent être vraiment acceptables partout.
Je souhaiterais que les élections passent le 30 juin parce que vous voyez que nous avons tant attendu et puis la transition a trop duré. Il a fallu que nous mettons fin un peu à cette transition et éventuellement mettre un gouvernement digne que le peuple va choisir. Et dans ce sens-là, je souhaiterais que les élections passent le 30 juin.
La préoccupation du peuple congolais aujourd'hui, je crois que ce sont des élections. Et tout ça pour que nous puissions mettre fin à la crise de légitimité et au paradoxe d'un pays riche avec une population extrêmement pauvre. De ce fait, je crois que tout le monde est d'avis que nous allons aux élections, alors des élections qui soient libres, démocratiques, transparentes et inclusives.
Voilà, c'est là le point de vue de ces Congolais de Matadi. Vous avez compris que beaucoup de gens incriminent pratiquement la CEI, des reports en report. Et on veut les élections le 30 juin, disent certains, mais d'autres qui ne tiennent compte que des élections. Vous êtes au centre maintenant.
Je ne crois pas que les gens ont dit ce que vous venez de dire. Je vois que la population a besoin des élections libres et transparentes. C'est ce que je retiens de ça. Mais je réponds un peu au professeur Ndaiwel. C'est vrai ce qu'il a dit, qu'il ne maîtrise pas tous les cadres dont j'ai parlé. Nous avons 274 partis politiques qui nous ont été envoyés comme agréés par le ministère de l'Intérieur. Et nous avons signé un code de bonne conduite avec plus de 250 partis de ces 274 partis politiques. Nous avons donc l'obligation de faire toujours une concertation avec eux. Mais l'article 11 de la loi électorale dit ceci: la convocation de l'électorat est faite par le bureau de la commission électorale indépendante conformément au calendrier établi par celle-ci. C'est là où il a raison, que c'est nous qui établissons ces calendriers, c'est que j'ai dit que c'est légal. Je crois que du côté de PES, il a dit, nous avons déjà dit plusieurs fois que nous ouvrons les bureaux aux candidats de l'UDPS qui sont des candidats à se faire inscrire. Nous les appelons maintenant à le faire. Il y a Mme Eve qui qui a anticipé les autres, elle est déjà inscrite comme candidate députée indépendante. Ceux qui veulent le faire sous le label IDPS, ils seront également enrôlés là-bas. Et nous savons qu'il y en a qui ont des cartes parmi eux.
On va maintenant poser des questions aux auditeurs. Vous allez comprendre que beaucoup de gens critiquent la CEI par rapport au non-respect de calendrier. Et rapidement, toujours à vous, Monsieur Bassingezi, Aristote Kayembe de Kananga, Kassa Occidental, la CEI est entraînée par une maladie de prolongation. Pourquoi ne pas rouvrir de bureaux d'enrôlement pour l'UDPS afin que cette prolongation soit acceptée par tout le monde? Chingombe de Kananga, Kassa Occidental, pourquoi la CEI prolonge la durée des dépôts de candidature sans consulter les politiques? Et Nico Adeito de Isioro, province orientale, pourquoi la CEI n'arrête-t-elle pas d'échanger des dates pour les élections? Voilà.
Je venais de vous montrer une lettre rapidement, signée par les deux chambres du Parlement qui a demandé la prolongation des 10 jours à certains partis politiques. Vous savez, consulter les partis politiques, c'est bon, mais ce sont eux-mêmes les candidats. Si on les consulte aussi chaque jour, ils vont prolonger comme ils veulent. Nous avons fait les 10 jours parce que les sièges, qui sont à 169, n'étaient pas encore tous remplis. Mais aujourd'hui, je voudrais vous confirmer que tous les sièges ont des candidats. Pour les restes des questions qui ont été posées, j'y ai déjà répondu. On est à l'inscription des candidats et non à l'inscription des électeurs. Nous avons motivé ça il y a de cela beaucoup de jours.
Beaucoup de questions là-dessus encore. Pourquoi cette prolongation alors que l'UDPS attend toujours la rouverture de bureaux d'enrôlement? C'est la question de Michel Temple Ntumba de Mbujimayi, Kassai Occidental. Désiré Kakambene de Uvira, Sud Kivu. Après cette prolongation, y en aura-t-il encore une autre? Si c'est oui, pouvez-vous le confirmer?
Comme ça
et il y a encore une autre
comme
question.
Comme ça vient du Kassai Occidental.
Non, c'est cette question. Cette question, c'est de vous dire d'Ouvira, celle que je viens de lire. Et rapidement, une autre, toujours dans le sens de prolongation de la CEI. De quel droit la CEI prend-elle la responsabilité politique de prolonger la transition au-delà de 30 juin 2006? Voilà, donc ce sont
au-delà,
là des questions qui mettent toujours
au-delà du 30 juin 2006, ce n'est pas un problème de la CEI, c'est un problème constitutionnel. La constitution est là depuis le 18 février, nous l'appliquons. Quant à la question qui venait du Kassai, le Kassai occidental a 103% d'enrôlés, il n'y a aucune autre province qui en a. Mbujimayi a 92,5% d'enrôlés, il a 11 sièges comme la ville de Mbujimayi et comme toute la province du Maniema. Ces problèmes devraient trouver des solutions ailleurs parce que les preuves des chiffres sont là. Il n'y a aucune autre province au Congo, l'on a enrôlé 103%.
Mais le problème, c'est que de plus en plus, les gens, ils considèrent, ils vous ont affiché une identité de ne pas respecter les calendriers que vous-même vous fixez.
Nous venons,
5 jusque-là, mais non respectés.
Non, nous venons de vous dire que, quand nous faisons un chronogramme, la loi électorale devrait sortir en janvier. Elle est sortie en mars et c'est la faute de la CEI. La loi portée identification et enrôlement des électeurs est sortie 18 mois après, c'est la faute de la CEI. Au moment où nous étions déjà en route, les deux chambres du Parlement et les mêmes partis nous ont écrit pour la prolongation, c'est la faute de la CEI. Et ce sont ces partis qui parlent aujourd'hui de négociations, ne sont pas nécessaires de négociations.
Toutes les questions.
Ça serait autre chose. Nous, on est là pour pousser les gens à aller aux élections.
Toutes les questions.
Et non négociations.
Toutes les questions qui m'arrivent ici concernent la CEI, mais pas les autres invités. Alors, je demande aux autres invités plutôt de réagir par rapport aux réponses que donne M. Bassingezi, par rapport aux questions posées par les auditeurs. On commence par vous.
Je pense que le vice-président a certainement raison de respecter la légalité, parce que c'est sa raison d'être. Mais il a tout aussi tort de ne pas tenir compte de préoccupations.
Je n'ai pas tort de ne pas avoir violé la loi.
Excusez-moi.
Il a
tout aussi tort de ne pas s'ouvrir aux préoccupations politiques. Nous, le politique, nous voulons éviter une crise. Une crise qui serait due à une perception
mais
inadéquate.
Mais comment j'augmente 10 jours et on dit que je ne m'occupe pas
de politique? Monsieur Tondou, la parole,
Monsieur
Bassingezi, s'il vous plaît.
Non, excusez-moi. Nous avons la responsabilité en tant que leader de voir et de prévenir. Eh bien, nous voyons que cette inadéquation entre d'une part la constitution ancienne qui survit dans les faits. Et la nouvelle constitution, qui ne devrait pas voir survivre certaines institutions, va amener un problème, surtout après le 30 juin. Je ne voudrais pas dramatiser cette date, mais je crois que nos dirigeants ont tort d'avoir peur du dialogue de concertation. La concertation et le dialogue sont les principes actifs d'une communauté. On ne peut pas parler d'une communauté sans dialogue. Là où il y a un dialogue entre un groupe d'hommes, alors ils font partie d'une même communauté. Et monsieur le vice-président a tort de réduire toute la vie politique aux préoccupations techniques.
J'ai raison de ramener les gens aux urnes.
Ça fait partie. Je ne fais pas de la propagande ici. Hein. Je ne fais pas de la propagande. Mais les préoccupations de la CEI font partie des préoccupations générales du politique. Et donc, lui, il a une vue parcellaire. Nous, nous avons une vue globale. Et il a tort de vouloir réduire la globalité à la particularité.
On va retrouver à 19h56. On va retrouver à 19h56 Thérèse Bassoubi pour les réactions des auditeurs avant de retrouver professeur Isidore Daïoël pour le mot de la fin. Retrouvons rapidement Thérèse Bassoubi. Bonsoir.
Bonsoir Franklin. Michel Ramazani à Kisangani. La CEI tâtonne avec les dates des échéances électorales, faute d'expérience en la matière. Maxime à Kisangani dans la commune de Mongafula. Toutes les prolongations des dates montrent que la CEI n'a pas d'expérience et manque d'hommes compétents pour les organiser. Nick à Kisangani. Le non-respect de la date limite du dépôt des candidatures reflète la nature des partis concernés. Félix Ouattou, le report après le 30 juin constitue toujours un danger irréparable pour la RDC. Mieux vaut grignoter quelques jours sur les derniers chronogrammes. Robert Bagalois, à Kisangani, le fait de prolonger la date des dépôts de candidatures permet aux récalcitrants de faire plus de magouilles. Babi Carlos Kalongo, à Mbujimayi, le peuple congolais souffre. Nous voulons simplement un état de droit, que les réclamations de l'UDPS soient prises en compte pour que nous ayons des élections inclusives et transparentes. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci beaucoup Thérèse Bassoubi. On vous retrouve demain pour d'autres opinions des auditeurs. Rapidement, professeur Isidore Ndaïoël, votre réaction par rapport à ces différentes opinions données sur la CEI.
Je crois comprendre que la CEI est dans une situation délicate. On devrait s'y attendre d'ailleurs parce que la CEI a le rôle ingrat d'essayer de contenter tout le monde, ce qui n'est pas simple. Mais je pense que nous devrions être indulgentes à l'égard de cette CEI. D'abord, il est impensable qu'elle puisse planifier une prolongation. Donc on est obligé de lui reprocher jusqu'à des choses qui ne relèvent pas d'elle, comme par exemple cette problématique des 50 000 $ évoquée comme étant donc une décision de sa part. Donc on comprend cette situation difficile. Moi je recommanderais tout de même à ce qu'on soit très indulgent vis-à-vis de cette CEI et qu'on la laisse faire son travail jusqu'au bout, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons au moins la CEI sur laquelle nous allons taper fort si ça ne marche pas. Et donc, laissons-lui la latitude de faire ce qu'elle a à faire pour qu'elle ne dise pas, elle aussi, si je n'ai pas agi correctement, c'est parce que vous m'aviez empêché d'agir. Donc, je crois que ça, c'est un élément que je crois qu'il faut que ça soit dit clairement. Par ailleurs, on doit évidemment conseiller à la CEI de ne pas perdre de vue que la concertation reste une vertu suprême dans une situation aussi délicate, et que pour tout ce qu'elle a à faire, elle doit pouvoir entrer en contact avec les différentes instances existantes pour que les décisions qui sont prises, les dispositions qui sont mises en place tiennent compte de l'opinion réelle de la classe politique, de la société civile, mais aussi de l'homme de la rue.
Merci beaucoup, professeur.
Je dirais en finale de cette discussion.
Merci beaucoup, professeur Isidore Ndaïoël. Je rappelle que vous interveniez dans cette émission depuis Paris. Ici au studio, nous avions Norbert Bassendesi, deuxième vice-président de la CEI, et Atondo Liongo, président de la Convention pour la démocratie et la République. Débat était tourné sur la prolongation de la transition, la prolongation de la date de dépôt des candidatures et ses implications, surtout en rapport avec les calendriers. Quel calendrier et qui doit fixer ce calendrier? C'est la fin de cette émission. Elle est disponible sur www.radiocapi.net, rediffusée demain à 4h45, heure de Kinshasa. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.